podcast copro par monimmeuble.com.
Bienvenue dans Podcast Copro, cette émission mensuelle qui fait le point sur l'actualité juridique de la copropriété. Je suis en compagnie de Charles Bobotte, avocat associé du cabinet BJA. Bonjour Charles.
Bonjour Isabelle.
Alors, pour ce mois-ci, j'ai bien noté la parution de la loi dite Habitat dégradé, hein, qui a été publiée le 9 avril. Hein, et je crois que on va y passer un petit moment ensemble. Hein, on va essayer de comprendre les grandes lignes de cette loi, en tout cas en ce qui concerne la copropriété.
Oui, en effet, on peut décrypter cette loi nouvelle encore, qui au départ avait un objet assez limité, puisque c'était pour les copropriétés vraiment très dégradées, avec 1,5 million de logements dégradés. Donc l'idée, c'était de voir comment les opérateurs, l'ANAH, peuvent aboutir à un recyclage, puis finalement un recyclage de ces copropriétés avec des régimes très spéciaux de copropriétés en difficulté. Puis finalement, amendement aidant, on est passé d'un article de 17 lois à 59, dont certaines concernent le régime général du droit de la copropriété.
Voilà, alors dans ces grandes lignes, j'ai noté trois points principaux. Les dispositions qui vont permettre de détecter et de lutter contre les copropriétés fragiles, les dispositions qui permettent de faciliter les travaux, en tout cas les travaux de rénovation énergétique, et ceux qui vont simplifier l'administration de la copropriété.
Peut-être qu'on va commencer par ce dernier point, et celui qui a fait en effet beaucoup de bruit, c'est sur la digitalisation, c'est-à-dire que là où auparavant on avait l'habitude des convocations et des notifications des PV d'Assemblée Générale par voie papier, c'était des grands pavés, s'il était possible d'avoir une notification par voie électronique, c'était uniquement avec l'accord express du copropriétaire. La loi, elle vient inverser le principe et l'exception, puisque le nouvel article 42-1 de la loi du 10 juillet 65, modifié par la loi Habitat dégradé, prévoit que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique. Exception, les copropriétaires peuvent à tout moment et par tout moyen demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.
Donc la digitalisation devient la norme et l'envoi par voie postale l'exception.
Exactement. Alors c'est une disposition qui n'est pas sans soulever des questions, notamment d'application de cette loi dans le temps, puisque le syndic dispose souvent de l'adresse mail, mais il n'a pas forcément vérifié que cette adresse mail elle était bien valable pour recevoir toutes les notifications. Néanmoins, la loi, elle indique que elles sont faites par voie électronique. Donc, peut-être que les syndics vont, afin de confirmer les adresses mail dont ils disposent, envoyer un courrier aux copropriétaires leur indiquant qu'en raison de cette nouvelle loi, eh bien, ils bénéficient de cette adresse mail, qu'ils peuvent valablement leur notifier à cette dernière adresse électronique. Et que s'ils ne le souhaitent pas, ils peuvent envoyer par voie papier, ils peuvent demander à ce que à bénéficier encore de la voie papier. Donc il y aura des grandes questions de savoir comment se ménager la preuve, et puis il y aura d'autres questions ensuite, si jamais le copropriétaire venait à changer d'adresse email, il y aura des questions de sécurisation de tous ces envois, parce que ça a des conséquences juridiques importantes, des conséquences juridiques et financières importantes, dans le sens où quand on a une convocation qui est envoyée à une mauvaise adresse, eh bien, ça peut vicier la procédure et on peut obtenir en justice une contestation de la décision de l'Assemblée générale.
Ah oui, alors donc là, pour le coup, il va falloir mettre à jour ces fichiers régulièrement. Mmh. Et puis après, bon, il y a aussi les spams. Hein. C'est pas parce qu'on a une bonne adresse que ça arrive au bon endroit. Hein. Donc, bon courage.
Oui, bon, après, il y a des prestataires de services de confiance qualifiée, la lettre recommandée électronique, ça existe déjà.
Oui. Ça sera pas que un email simple, à mon avis, hein, là, pour faire ça. Oui.
Oui.
Il faut passer par quelque chose de, par un tiers, je pense, hein, qui va identifier l'envoi, etc. Oui, un prestataire.
Il y a des prestataires de services sécurisés qui fonctionnent déjà. Maintenant, voilà, ce sera. À un moment donné, il faudra quand même avoir le nom, le prénom et l'adresse mail du copropriétaire. Et ces informations-là, elles devront être bien vérifiées avant de passer à la notification électronique.
D'accord. Alors, toujours sur cette partie de l'administration de la copropriété, j'ai noté également des modifications en ce qui concerne la résiliation du contrat de syndic par le conseil syndical.
Oui, ben, ça, c'est une disposition qui était un peu spéciale, un peu poussée par des associations de consommateurs qui visent à ce que le contrat de syndic en cours de mandat, on puisse lui résilier son contrat. Alors que le principe, c'est la durée hein, d'un contrat et on peut pas résilier avant la fin. Par exception, en cas de motif suffisamment grave, il peut être prévu de convoquer une assemblée générale pour résilier le mandat. D'ailleurs, ça peut venir du syndic ou du conseil syndical. Et cette loi, elle ajoute que si jamais le syndic venait à résister à la demande de convocation d'une assemblée générale en vue de résilier le contrat en cours de mandat pour motif suffisamment grave, eh bien dans ce cas-là, le président du conseil syndical sera habilité pour convoquer seul l'assemblée générale pour procéder à cette résiliation.
D'accord. Donc c'est un pouvoir supplémentaire pour le président du conseil syndical.
Exactement, c'est encore une fois une poussée consumériste visant à un peu de méfiance, voire de paranoïa vis-à-vis de la profession. On rajoute des dispositions dans ce sens-là.
D'accord. Alors après, on évoque quoi ? Les travaux peut-être ? Alors les travaux, c'est important en copropriété, les travaux. Hein. Donc là, bon, évidemment, personne n'a pu échapper à ce nouveau... Cette modification aussi en ce qui concerne l'emprunt collectif en copropriété. Donc là, il y a quand même des avancées hein, pour le financement.
Oui, c'est vrai qu'il y a un mur du financement avec les travaux liés à la rénovation des copropriétés dégradées, mais également avec la rénovation énergétique. Et malgré toutes les aides et les financements qui existaient déjà, il y a un reste à charge. Et si jamais on fonctionne avec l'emprunt collectif à adhésion individuelle, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. L'idée, c'est d'aller vers un emprunt vraiment collectif qui est proposé donc par le nouvel article 26-4 de la loi du 10 juillet 65 modifiée, qui prévoit que des travaux ils seront votés et à la même majorité sera souscrit l'emprunt collectif. Et les copropriétaires qui ne se manifestent pas, eh bien le silence vaut emprunt. Et ceux qui refusent, ils devront régler la quote-part restante dans le délai de 6 mois. Donc c'est de l'emprunt à marche forcée quelque part, sous réserve qu'une banque propose bien ce dispositif et sous réserve également que on ait une assurance pour l'emprunt et une caution. On envisage le soutien par l'État d'une caisse qui viendrait soutenir ces emprunts collectifs pour aider à la rénovation des copropriétés qui vont mal et à la rénovation énergétique.
Alors, j'imagine que pour mettre ça en place, il y aura peut-être encore par la suite des décrets d'application qui vont préciser le mode de fonctionnement, les cautions, parce que là, c'est peut-être pas suffisant quand même pour que les banques se chargent de ces emprunts.
Bah, à ce jour, en tout cas, on a les dispositions légales qui vont bien. Donc on attend, peut-être qu'il y aura un décret d'application, mais peut-être pas. Ce qui compte vraiment, c'est de voir si les banques se mobilisent. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas encore de banques qui se sont positionnées.
D'accord. Bon, à suivre donc. Et oui. Pour les travaux, toujours, travaux de rénovation énergétique. Alors là, intéressant. On a une passerelle renforcée. J'aime bien le terme.
On force la passerelle, on pourrait le dire comme ça.
En fait, c'est ça. On passe en force. On passe en force, voilà.
L'idée, c'est que avec les majorités, on joue beaucoup jusqu'à ce que ça passe. Donc, pour les travaux de rénovation énergétique, avant, on était à la majorité de l'article 24. Mais on trouvait que c'était un peu léger parce que c'est des travaux qui sont finalement financièrement assez importants. Donc, on les a réélevés à la majorité de l'article 25. Seulement, parfois, ça passe pas à la majorité de l'article 25. On a une passerelle qui est possible. C'est que si la majorité de l'article 25, c'est la majorité des voix, donc si on a 1000 millièmes, il en faut 501. Parfois ça passe pas, eh bien on utilisait la passerelle, c'est-à-dire qu'il fallait avoir au moins le tiers des voix pour avoir la majorité des voix exprimées. mais parfois ça passait pas non plus. Alors ce que la loi propose, plutôt que de réduire la majorité en revenant à 24, parce qu'ils trouvent que c'est pas assez démocratique, ils disent eh bien qu'on reconvoquera une si la passerelle de 25-1 elle a pas fonctionné, on reconvoquera une assemblée générale dans le délai de 3 mois et la majorité qui sera appelée, ce sera la majorité de l'article 24. Donc
là, on aurait fait 3 AG pour en revenir à la majorité de l'article 24, en gros, quoi.
Presque. C'est un peu tarabiscoté. C'est-à-dire qu'on refait revenir une assemblée générale, parce que normalement, l'idée c'était de simplifier la passerelle et de faire que tout se passe à la même AG. Là, non, on devra reconvoquer une assemblée générale. Et ouais, cette assemblée générale se prononcera à la majorité de l'article 24. Franchement, ouais, c'est un peu complexe.
Bon, ben on verra si les travaux se votent mieux, hein, je ne sais pas. Okay. On prendra un petit peu de recul par rapport à ça et on verra si beaucoup de copropriétés vont utiliser cette nouvelle passerelle.
En tout cas, c'est sûr que ça va fluidifier les votes. C'est juste complexe, mais à la fin, ça va fluidifier les votes.
Oui, ça va dans le bon sens, hein, pour faire voter les travaux. Alors, travaux d'isolation. Travaux d'isolation, cette fois à la demande et à la charge d'un copropriétaire.
Il y a beaucoup de réserves, hein. C'est-à-dire que si un copropriétaire veut faire des travaux d'isolation, il devra présenter son projet en indiquant qu'il ne porte pas atteinte à la structure de l'immeuble, aux équipements essentiels, à sa sécurité, à la salubrité. Et une fois que le projet il sera envoyé au syndic, le syndicat des copropriétaires, ils seront appelés à voter dessus à la majorité de l'article 25 et le cas échéant à la majorité de l'article 25-1. Et le copropriétaire, il se comportera vis-à-vis de ce chantier comme le maître de l'ouvrage.
D'accord. Alors ça, c'est quoi les raisons? C'est pour les étiquettes énergétiques? C'est peut-être pour le DPE? C'est quand on n'arrive pas à faire voter les travaux parce que ça bloque au niveau de la copropriété et qu'on veut améliorer quand même sa note, je ne sais pas.
Oui, toutes ces raisons avancées me semblent tout à fait plausibles, Isabelle, j'y souscris.
Bon, ben, d'accord. Alors, après, on a, alors ça, c'est le diagnostic structure de l'immeuble, mais ça, c'est dans des cas précis, hein, je crois. Ce n'est pas pour tous les immeubles en copropriété, là, c'est toujours pour des cas particuliers.
Parce que c'est d'ailleurs des périmètres qui seront concernés et indiqués dans le PLU, le plan local d'urbanisme. Et donc tous les immeubles qui seront visés dans cette zone devront bénéficier d'un diagnostic structurel décennal. Donc ça vise à éviter tous les effondrements qu'on a connus à Marseille, Lille, Toulouse. Y a quand même des exceptions, c'est les immeubles collectifs qui ont plus de 10 ans qui sont dans cette zone-là. Et troisièmement, pour les immeubles en copropriété, il y a une dispense si jamais il y a eu un diagnostic structurel réalisé dans le cadre du plan pluriannuel de travaux ou du DTG, du diagnostic technique global.
Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir
trop de superposition de diagnostic. Mais quand même, c'est des précautions lourdes qui peuvent être, qui devront être réalisées dans toutes les zones dans lesquelles le maire aura notamment désigné qu'on est en secteur protégé.
D'accord. Alors, pour en revenir aux copropriétés fragiles, donc là, on est surtout sur la partie limiter les impayés. Donc là, on a le mandataire ad hoc, hein, dont on avait déjà parlé, et la responsabilité du. Alors on a aussi l'administrateur provisoire et surtout la responsabilité du syndic dans cette affaire.
Oui, alors comment on croise tout cela? D'abord, le mandataire ad hoc, on rappelle, il est obligatoire dans toutes les copropriétés dans lesquelles on a 25% d'impayés pour les copropriétés de plus de 200 lots ou 15% pour les plus de 200 lots. Et on en rajoute une condition, il pourra également être désigné en cas d'absence de vote de l'Assemblée Générale sur l'approbation des comptes depuis au moins 2 ans. Ce mandataire ad hoc, on se rend compte que dans les faits, il est très peu désigné. Et c'est justement pour renforcer sa désignation qu'il est prévu que si jamais on va à l'étape d'au-dessus, c'est-à-dire que si jamais on désigne un administrateur provisoire, lequel évince le syndic et donne à l'administrateur provisoire les pleins pouvoirs, c'est-à-dire les pouvoirs du syndic et de l'Assemblée Générale, eh bien, lors de cette désignation de l'administrateur provisoire, si au préalable il n'y avait pas eu de désignation d'un mandataire ad hoc, eh bien, le coût de l'administration provisoire pourrait être mis à la charge du syndic. C'est une forme de présomption de responsabilité. Pour moi, c'est un petit peu attentatoire au principe de réparation intégrale. Alors bon, on verra dans les faits, quand même, c'est pas automatique, puisque le président du tribunal judiciaire pourra imputer toute ou partie des frais de l'administrateur provisoire au syndic après audition du syndic et du conseil syndical et du rapport de l'administrateur provisoire. Donc, on peut espérer quand même que les juges feront part de discernement. Sinon, c'est de quoi décourager les syndics de prendre des copropriétés fragiles en se disant qu'il y a une épée Damoclès qui pèse sur eux.
Ah oui, tout à fait. Alors le syndic, toujours lui, hein, il est au centre des débats dans cette loi. Et donc là, il a un nouveau statut. Hein. C'est maintenant, il est devenu aussi syndic d'intérêt collectif. Alors là, on imagine que c'est aussi des syndics qui auront développé certaines compétences pour gérer ces copropriétés en difficulté. Et en quoi ça consiste exactement? Je ne sais pas, je pose la question.
Oui, vous savez, parfois on dit qu'on répond à une question par une question. Le syndic d'intérêt collectif, autant la loi nous dit qui il peut être, mais quelles seront ses missions véritables, qu'est-ce qu'il fera, dans quel cadre il sera désigné, tout ça, la loi elle reste très silencieuse là-dessus. Donc oui, on a un syndic d'intérêt collectif, j'aime pas tellement l'expression, ça voudrait dire que les autres syndics seraient des syndics d'intérêt égoïste ou individuel. Donc ils seront désignés selon le nouvel article 18.3 pour intervenir dans les copropriétés ayant fait l'objet d'un mandat ad hoc ou d'une administration provisoire. Sont présumés syndics d'intérêt collectif ceux des organismes HLM et sociétés d'économie mixte. On peut envisager que les syndics qui sont certifiés par l'association CALISR seront retenus également pour devenir syndics d'intérêt collectif. Néanmoins, en mandat ad hoc, en principe, le syndic reste en place, donc je vois pas pourquoi le syndic d'intérêt collectif pourrait être désigné. Et en administration provisoire, peut-être qu'il y aura et un administrateur provisoire et un syndic d'intérêt collectif si l'administrateur provisoire ne bénéficie pas d'une structure comptable suffisante pour gérer des copropriétés. Les questions restent ouvertes.
D'accord, mais là, j'ai pas l'impression que ça simplifie beaucoup les choses. Hein. Donc, à voir, mais... D'ailleurs, les syndics professionnels eux-mêmes étaient assez sceptiques. Hein. Alors là, on arrive à un point important, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'un article hein, au sein du cabinet. Je crois même que c'est vous, Charles, qui l'avez rédigé. La super saisie conservatoire. Alors là, il a fallu un peu développer, je crois.
Oui, alors la saisie conservatoire, c'est l'idée qu'avant tout procès, avant même tout commandement, il sera possible de bloquer le compte bancaire du copropriétaire et dans le mois, assigner le copropriétaire débiteur, qui permet, pendant toute la durée de la procédure, qui est parfois longue, eh bien, de bloquer les sommes. Ça a un double avantage. Le premier, c'est naturellement d'arriver à une résolution amiable. Parfois, le copropriétaire, ayant vu les sommes bloquées sur son compte en banque, peut être encouragé pour régler volontairement sa créance. Le deuxième, c'est que, en fin de procédure, si le dernier il venait à organiser son insolvabilité ou à perdre une partie de son patrimoine, eh bien, on aura au moins cette somme qui aura été bloquée, qui permettra de rembourser en partie les charges qui sont dues auprès du syndic. Ça, c'est les avantages.
D'accord. Donc, ça va accélérer. En quelque sorte, le fait que les sommes soient directement bloquées, ça permet d'agir plus vite hein, et peut-être d'avoir une prise de conscience immédiate pour le copropriétaire qui est défaillant.
Je suis obligé de dire les inconvénients aussi. C'est que cette procédure, elle ne permet pas tout. Le copropriétaire débiteur, il pourra saisir le juge pour dire que les fonds, ils ont été bloqués et qu'on ne répond pas aux conditions qui sont prévues par l'article 511-1. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas péril dans le recouvrement de la créance et que la créance n'était pas certaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les provisions qui sont visées par l'article 511-2, c'est uniquement les provisions qui sont visées à l'article 19.2. Donc, c'est-à-dire, c'est pas tout l'arriéré des charges. C'est uniquement les provisions qui ont été votées au titre du budget prévisionnel de l'exercice et les travaux qui ont été votés. Éventuellement, si on a fait une mise en demeure 19.2, on pourra également rendre exigibles toutes les provisions, toutes ces provisions-là, mais ça ne permet pas de régler tout le sort de la créance. Donc au final, il y a quand même pas mal de trous dans la raquette dans cette procédure de saisie conservatoire sans juge.
Très bien. Alors peut-être qu'on a encore le temps, soit pour une petite jurisprudence, soit pour une recommandation du Gréco, je ne sais pas, mais on n'aura peut-être pas le temps pour tout. Alors qu'est-ce qu'on choisit, Charles?
Non, mais peut-être juste en rentrer dans le cœur, mais juste en deux mots dire les deux. Il y a eu le 25 janvier 2024 des communiqués, un communiqué du tribunal judiciaire qui donne un éclairage intéressant sur la location saisonnière. Donc voilà, celui-ci sera joint dans le compte-rendu de notre échange. D'autre part, on a une préconisation du Gréco sur les cessions de parties communes spéciales qui répond à toutes les questions qui nous intéresse, c'est-à-dire qui décide de la cession, que cède-t-on, quelles sont les modalités de cession, quelles sont les conséquences. Donc voilà, un peu de lecture pour être à jour, parce que c'est vrai que on dit que c'est tout ça, c'est ce qui revient sur le mois d'avril et les actualités ont filé.
Ben oui, bien sûr. Donc là, ben il faut déjà digérer tout ça, hein, parce que ça vient de, bon, c'est du mois d'avril, mais bon, on n'est qu'au début mai. Donc il va falloir mettre tout ça en application, en musique. Et bon, ben quand on va se retrouver pour le mois prochain, ben peut-être qu'on aura un petit peu de recul et peut-être qu'il y aura d'autres décrets d'application qui seront parus entre-temps. Qui sait? On ne sait pas. On verra bien.
On
Donc.
procède à une analyse, en tout cas, de toutes les dispositions. Voilà, il va falloir prendre un peu de recul. On dit que le corps social, il a besoin de temps pour en intégrer une réforme d'envergure. Donc, voilà, on est encore sur le temps du décryptage.
Eh oui, bon, bah Charles, merci. Merci pour toutes ces précisions, ces explications. On va effectivement devoir se replonger un petit peu plus précisément dans les textes et on aidera nos lecteurs à le faire en précisant tout ça dans un bel article. Et puis on les renvoie aussi vers les sujets qui ont été traités par le cabinet BJA. Donc, bah, à bientôt, hein, Charles. Hein?
Merci
Bon,
Isabelle
voilà.
et à bientôt, tous chers auditeurs. Merci pour votre suivi régulier. Vous êtes de plus en plus nombreux, on apprécie.
Exactement, voilà. Ben merci, au revoir Charles.
Au revoir.
Au revoir.
Podcast copro par monimmeuble.com.